La maison au bout du chemin, une émission de Radio Rentiel présentée par Christophe Jubien.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Maison au bout du chemin, l'émission de Radio Rentiel qui vous permet de découvrir chaque mois un aspect de la vie quotidienne au sein d'une EHPAD, en l'occurrence le parc Saint-Charles à Chartres, une maison de retraite médicalisée. Après avoir recueilli les confidences du directeur Jean-François Vivier et de l'infirmière coordinatrice Élise Plancard, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le chef cuisinier. Bonjour Stéphane Lemaître.
Oui, bonjour, Stéphane Lemaître, chef de cuisine du parc Saint-Charles.
Merci de nous accueillir dans votre royaume, parce que la cuisine ou la salle de restaurant, c'est plus qu'un lieu de travail, en tout cas en France, où l'art culinaire a su garder ses lettres de noblesse. J'ai eu l'occasion de goûter votre cuisine, cher Stéphane, en juillet dernier. Je dois dire que je me suis vraiment régalé. On est très loin de l'image que renvoie trop souvent la cuisine collective, pas des gros plats vite préparés et servis à la louche. Ici, on est vraiment dans le service à la personne et jusqu'au bout, ça on le verra tout à l'heure. Mais tout d'abord, parlez-nous un peu de vous. Comment vous êtes devenu cuisinier ?
Eh bien, je suis devenu cuisinier, enfin, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Donc, dès mon plus jeune enfance, j'ai décidé de faire de la cuisine. Donc, après la troisième, j'ai entamé un CAP de cuisine à la Vieille Maison, à Chartres.
Excellente enseigne.
Excellente enseigne. J'ai eu un très bon maître d'apprentissage qui m'a inculqué la bonne cuisine. Donc ensuite, j'ai réussi mon CAP, j'ai passé quelques concours où je suis arrivé premier. Et ensuite, mon parcours a été un petit peu à l'étranger, en Suisse, ensuite en Angleterre, à Londres.
En Angleterre alors.
Ouais. Intercontinental. Ensuite, ça a été l'heure du service militaire. J'ai été cuisinier, maître d'hôtel chez un général au Sénégal, dans l'armée de l'air. Et après, mon parcours a été surtout sur Paris, dans des étoilés Michelin et dans différents gros restaurants. Et ensuite, j'ai, pour des raisons familiales, parce que la restauration, c'est quand même des horaires un petit peu durs pour fonder une famille. Donc, je suis rentré ensuite chez un prestataire de cuisine collective où là, j'ai fait une vingtaine d'années. Et il y a deux ans exactement, j'ai rejoint le Parc Saint-Charles, le groupe Elena, où là je m'éclate à faire la cuisine. Voilà.
Alors vous êtes trop modeste parce que vous avez dit tout à l'heure, oui, bah je suis arrivé premier dans des petits trucs. En fait, vous avez été meilleur apprenti cuisinier de Haute-Loire et ensuite meilleur apprenti cuisinier de la région centre. C'est quand même des doigts d'or, quoi.
Ouais, je pense que oui, j'ai réussi mon début de parcours. Normalement, mais bon, la cuisine m'a toujours plu, donc. C'est vraiment une passion.
C'est tout. On dit souvent que ce sont les mères qui apprennent, enfin qui donnent envie aux enfants de cuisiner.
La maman et surtout la grand-mère. Ma grand-mère qui était une excellente cuisinière, donc les plats traditionnels, le sauté de lapin, tout ce genre de cuisine traditionnelle où j'excelle quand même dans cette matière. Voilà.
Alors, donc vous êtes passé du restaurant à la cuisine collective, puis à l'EHPAD. Alors, c'est encore autre chose. Mais est-ce que c'est, on peut dire, le même métier ou en arrivant ici, vous avez été obligé de vous former, de suivre une formation particulière ?
Non, pas une formation particulière, parce que, enfin, on rejoint plus la cuisine traditionnelle. Enfin, pour moi, dans le groupe Elena, on rejoint plus la cuisine traditionnelle que de travailler dans une grosse société de cuisine collective. Donc, et j'ai moins les mains. Enfin, on me laisse le choix de cuisiner, de m'épanouir et de faire plaisir aussi. Parce que au Parc Saint-Charles, au groupe Elena, la priorité, c'est de faire plaisir aux résidents.
C'est ce que vous me disiez, finalement, les gens ont peu de plaisir quand on arrive en fin de vie. On voyage plus, bien évidemment. On a même du mal parfois à faire quelques pas. L'heure du repas, c'est quelque chose.
L'heure du repas, c'est important de faire des plats traditionnels de France, mais aussi des plats traditionnels du monde entier, parce qu'on a des résidents quand même qui ont fait beaucoup de voyages, donc ça les ramène dans leur jeunesse, quand ils mangent même un couscous, un tagine.
Le tiep, non? Ou le...
Non, je connais pas.
Alors, je me dis que faire la cuisine pour une centaine de personnes tous les jours, à la même heure, deux fois par jour, c'est quand même un sacré boulot. Vous commencez votre journée à quelle heure?
À 7h du matin. Mais bon, tout ça, c'est une question d'organisation et d'avoir aussi une bonne équipe sur qui on peut compter. Donc là, c'est quand même important. J'ai deux secondes cuisines qui sont vraiment des professionnels. Donc, en travaillant à trois, on obtient de très bons résultats.
C'est vous qui les avez choisis ?
Non, je les ai repris il y a deux ans, quand je suis arrivé ici. Et l'ancien chef de cuisine qui était là, j'ai été son chef de cuisine auparavant dans un autre groupe. Donc... je connaissais sa façon de travailler, donc j'ai récupéré son poste et c'était facile quand même.
Voilà une exigence particulière quand on vient de la gastro, non ?
Faut être exigeant, je pense. Dans la cuisine, faut être exigeant parce que si on n'est pas exigeant, on part vite à la dérive, quoi. Et bon, vu étant donné que j'ai travaillé quand même dans des restaurants gastronomiques où là tout est pointu, bah ça m'est resté, quoi. On a beau sortir d'un étoilé Michelin, quand on travaille dans une collectivité, on a les mêmes réflexes.
Quoi. Bon réflexe, bien sûr. Ouais. Donc vous commencez votre journée à 7h et vous la finissez à quelle heure?
15h. 15h, et moi, mes secondes cuisines travaillent le soir, une journée sur deux, et moi, je travaille du lundi au vendredi. Donc, on est bien chez Elena aussi. On nous laisse travailler correctement.
Alors, Bocuse avait coutume de dire qu'un bon cuisinier, je crois que c'est celui qui sait d'abord choisir ses produits de base. Est-ce que c'est votre cas? Comment vous procédez pour choisir vos produits? J'imagine, vous n'avez pas le temps, évidemment, d'aller au marché le samedi matin.
On n'a pas le temps. Le groupe Elena nous met à disposition une gamme de menus avec des produits référencés, parce que c'est pareil, la cuisine collective, il faut qu'il y ait des traçabilités, il faut savoir d'où viennent la viande, d'où viennent les légumes. Donc, en fait, je travaille avec une gamme de menus qui est revue par une diététicienne dans le groupe Elena, et moi j'élabore ensuite un menu qui doit satisfaire aussi les résidents. Voilà.
Donc c'est un menu avec évidemment à chaque fois le hors-d'œuvre, une viande ou un poisson, des légumes quoi.
Des légumes frais, de la viande fraîche, du poisson frais. Les légumes, donc on les prépare, tout est préparé sur le site du parc Saint-Charles. Un maximum de pâtisseries fraîches que je fais des fois, deux fois par mois, confectionnées par les résidents.
C'est ce que vous m'avez dit, une tarte pomme là hier, c'est ça qui a été faite.
Voilà, une tarte pomme. Et je pense que pour les résidents, il faut pas faire une cuisine trop élaborée. Faut vraiment revenir à ce que eux ont connu étant jeunes. Donc, et c'est là qu'ils prennent plaisir à confectionner un dessert. Voilà.
On a toujours plaisir à retrouver les goûts de l'enfance, mais peut-être plus particulièrement quand on est âgé comme ça.
Oui, je pense que, et c'est des gens, faut revenir à des produits qu'ils ont connus. Donc moi j'ai mis tous les poissons, j'ai remarqué que depuis que je suis ici, les poissons, faut pas aller chercher un poisson qui vient de la mer des Caraïbes, faut leur faire de la truite. De la saumonette, parce que c'est des poissons qu'ils ont connus étant jeunes, du filet de maquereau, enfin des poissons qu'ils ont connus. Il est hors de question, par exemple, de faire un poisson pané, quoi. Voilà. Alors, plus tard, d'ici peut-être 20 ans, on y viendra au McDonald's, parce qu'on aura une autre. On aura d'autres personnes qui ont connu ça, mais là, actuellement, c'est des gens qui connaissent la cuisine traditionnelle, quoi, qui adorent la cuisine traditionnelle.
Et ni vous ni moi ne verrons cette horreur s'installer, je pense. Alors, les critères pour choisir les produits, est-ce qu'il y a quand même, parce que bon, vous l'avez dit, il y a une gamme qui est plus ou moins donc la même pour toutes les EHPAD du groupe. Cependant, évidemment, vous pouvez quand même, vous avez votre pâte, bien évidemment, dans la confection, vous avez toute liberté pour composer les menus à votre guise quand même.
J'ai une toute liberté de composer mes menus. Il faut que j'utilise le produit. Mais ensuite, après, j'ai un sauté de veau, on peut le faire, sauté de veau maringot, sauté de veau. Après, c'est à la convenance des résidents. Je leur demande, je suis à l'écoute, je vais les voir. Et je leur demande ce qui peut les satisfaire. Alors bon, bien évidemment, on peut pas satisfaire 92 résidents en même temps, hein, mais on essaye d'aller voir tout le monde et de leur demander ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils... Voilà.
Il y a des classiques ici, non ? Il y a des choses qui reviennent assez fréquemment.
Alors, je pense que chaque région a ses plats typiques. Nous, en Beauce, c'est la pomme de terre. Si pendant une semaine je fais pas de pommes de terre, ils vont me donner des coups de canne. Le poulet, le bœuf et tout ce qui est légumes, voilà. Faut pas aller chercher trop loin quand même.
Une petite parenthèse, vous aviez des spécialités ?
Le poisson surtout, le poisson, parce que quand j'étais en gastronomie, j'étais souvent en partie poisson et sauce, donc c'est un produit qui demande une cuisson parfaite, pointue, donc ouais, je préfère le poisson, mais après, moi ça fait quand même 33 ans que je pratique la cuisine, donc après, on commence à bien gérer un peu toutes les recettes.
Est-ce que vous avez toujours envie quand même d'innover parfois, de mettre de la nouveauté, d'essayer ?
Il faut mettre de la nouveauté, parce que si je fais toutes les semaines le même menu, le même plat, le même hors d'œuvre, là les résidents ils vont pas non plus être satisfaits, donc j'essaye d'innover. Mais bon, là c'est ça qui est intéressant dans la cuisine, il n'y a pas de limite, donc on peut faire tout ce qu'on veut. On peut même faire une tarte à la courgette en dessert.
Vous l'avez osé, ça ? Oui, vous l'avez fait ?
On l'a osé avec du miel.
Arrêtez, je sors de table.
C'est excellent. C'est excellent.
Alors, est-ce qu'il y a des contraintes là, médicales ? Est-ce que par exemple vous êtes obligé de personnaliser parfois vos menus ?
Oui, on est obligé de personnaliser parce qu'on a des résidents qui arrivent en fin de vie, donc avec Monsieur Vivier, avec l'infirmière coordinatrice Élise, on a mis en place certains plats, certaines textures pour les gens en soins palliatifs qui sont en fin de vie, donc je vais voir les gens ou les familles, parce que des fois ces gens-là ils peuvent plus communiquer, donc je reçois les familles, je leur demande ce que la maman ou le papa aimait manger, et là on commence à faire à leur faire plaisir, parce que là c'est vraiment leur seul plaisir là.
Voilà. On est vraiment encore finalement jusqu'au bout dans le soin à la personne.
On est à la carte. Ouais. On essaye de cuisiner à la carte. De Madame Dovio, elle aime les pommes de terre, mais il faut qu'elles soient épluchées. Elle aime. Voilà, on essaye. Faut que je sache à quoi la demande des résidents, quoi.
Donc ça c'est un travail quand même, ça c'est du travail quoi finalement.
Ouais, c'est du travail parce que on a toujours des nouveaux résidents aussi, donc faut apprendre à les connaître, mais pour leur faire plaisir faut les connaître, ouais. Faut les rencontrer, faut communiquer et ensuite on fait plaisir.
Alors ce qui est intéressant, là je suis arrivé tout à l'heure par exemple à l'accueil et à côté de la dame de l'accueil il y avait un résident qui était ici de l'autre côté. On voit que il n'y a pas de mur quoi, je veux dire.
Non, il n'y a aucun mur, non. Et c'est vrai que moi qui connaissais absolument pas les maisons de retraite, ou alors j'en avais une vision un peu... voilà. Et moi dans cet établissement, on travaille avec les résidents, on est près d'eux, il n'y a pas de porte, quoi, il n'y a pas de... On s'occupe, voilà, il n'y a pas... La Sandrine qui est à l'accueil, voilà, elle est avec Lulu, ils tiennent tous les deux l'accueil, ça l'occupe. Et pareil, quand je travaille avec... quand je fais des animations culinaires dans la salle de restaurant... N'importe quel résident peut venir éplucher des pommes. La dernière animation, j'ai fait un pot-au-feu. La veille, ils ont épluché tous leurs légumes. Ouais. Pommes de terre, navets, poireaux, carottes. C'est eux qui ont préparé. Voilà.
Ce qui fait qu'il y a toujours une vie non seulement sociale, mais comme ça, une vie presque utilitaire, si j'ose dire. Quoi. On est toujours utile. Quoi.
On essaie, voilà, qu'ils se sentent à la maison, comme à la maison.
Ouais.
C'est la politique de la maison, quoi, de travailler comme ça.
Alors, il y a le service, c'est évidemment très important. Mais il n'y a pas de réfectoire ici. Enfin, je veux dire, c'est une véritable salle de restaurant. Moi, j'y suis allé avec des couverts, des beaux couverts.
On se croirait vraiment, ouais, au restaurant avec des serveuses. Le service est à table. Alors, on a aussi les résidents, s'ils veulent manger, être tranquilles dans leur chambre. Ils ont des plateaux repas, le même menu que dans la salle de restaurant. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment de la restauration. On n'est vraiment pas dans un... Comment je pourrais dire,
dans un réfectoire de cantine ou des choses...
Ouais. Là, c'est vrai, on est vraiment, oui. On est quand même dans une maison assez... qui est très bien tenue. Et c'est vrai, oui, on peut appeler ça un restaurant. Et non la cantine.
Alors il y a la particularité du Parc Saint-Charles et de plus en plus d'ailleurs d'EHPAD, c'est évidemment d'avoir un secteur Alzheimer. Est-ce que ça change quelque chose pour vous de servir des repas à des gens qui ont Alzheimer? On est obligé de les aider, bien évidemment.
Les aider, mais en fait, c'est des gens normaux. Hein, ils ont oublié que certaines choses, mais ils mangent exactement la même chose que les résidents qui sont bien portant, il n'y a aucune différence, à part par exemple après les textures, on élabore selon la capacité de la personne comment elle peut manger. On a trois textures: un repas normal, haché parce qu'ils ont des problèmes de dents, et mixé parce qu'ils ont des problèmes de soit dents aussi, où ils sont très fatigués, déglutition, fausse route, pour éviter tout ça, on s'adapte.
Un peu de médecine finalement.
Et je fais des bons médicaments, moi.
Ouais. Alors les relations avec les résidents, vous nous avez dit, ils viennent vous voir, vous leur faites éplucher des légumes, etc., faire des tartes. Est-ce qu'il vous arrive d'aller aussi comme un chef cuistot le fait parfois dans la salle du restaurant pour les voir?
De leur demander leur avis, faire un tour même s'ils vont bien, et même le matin, je vais les voir aussi dans leur dans les étages, savoir comment ils vont, qu'est-ce qui leur ferait plaisir la semaine prochaine, parce que je vais faire le menu pour la semaine prochaine, donc je leur demande qu'est-ce qui leur ferait plaisir, et voilà.
Vous avez l'impression d'être un peu chez vous, non, quand vous arrivez ici le matin, en tout cas chez vous, d'être de faire partie d'une famille un peu?
Ouais, une famille, et j'ai connu certains postes de cuisine où j'allais au travail, mais sans... des fois un peu à reculons, que là, franchement, c'est vraiment agréable de travailler ici.
Il y a une dimension un peu humaniste aussi,
ouais,
non?
Tout à fait, ouais. Ouais, on est... Non, puisque voilà, ce qui me fait plaisir, c'est de... En fait, le métier de cuisinier, c'est de prendre plaisir à donner du plaisir, quoi. Et avec tout ça, on a...
Quand vous voyez les gens mangent de bon appétit, vous êtes repu vous-même.
Voilà, c'est moi, mon état d'esprit de je suis content quand je vais dans la salle de restaurant et les résidents me disent: ah chef, c'était bon.
Alors, on a parlé des résidents, mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous faites aussi à manger pour le personnel.
Pour le personnel, une quinzaine de personnes, selon les roulements. Et c'est pareil, ils mangent les mêmes menus que les résidents. Et ma foi, ils m'ont toujours pas coupé la tête.
Alors, je voudrais qu'on parle pour terminer, il nous reste deux petites minutes, du métier peut-être. Est-ce que c'est une filière particulière? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être cuisinier en collectivité dans un EHPAD, on peut devenir carrément cuisinier en EHPAD tout de suite sans être passé par la gastronomie. Est-ce qu'il y a une filière particulière?
Des diplômes?
Il y a un CAP de cuisine collective. Maintenant, je pense que pour être un bon cuisinier en collectivité, faire ses premiers pas en gastronomie ou restauration traditionnelle, je pense que c'est un plus quand même.
Vous conseilleriez à ceux qui nous écoutent, aux plus jeunes, d'en passer plutôt par la restauration traditionnelle.
Je pense qu'on on apprend beaucoup plus les bases et la vraie cuisine. Non pas que la cuisine collective n'est pas une vraie cuisine, mais je pense que un bon cuisinier, il doit commencer en restauration traditionnelle. Ouais.
C'est un métier que vous conseillez ?
Oui, en plus, il y a beaucoup de travail. Il y a un cuisinier qui ne trouve pas du travail, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'il se remette en question.
Alors, la dernière question, parce que ça intéresse aussi les jeunes, bien évidemment. Du point de vue pécuniaire, c'est un poste intéressant ?
Ah oui, intéressant. Intéressant, oui. Ouais. Ah ouais, après, faut... moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est... De profiter aussi d'allier voyage et travail, parce que c'est un métier où on peut voyager en plus. On peut donc pas rester cantonné dans sa ville natale là, et voyager à l'étranger. Il y a énormément de débouchés, ouais. Énormément. Et là, le cuisinier français est réputé dans le monde entier.
En Angleterre, par exemple, vous travaillez, c'est un restaurant anglais, de cuisine anglaise ?
Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de gastronomie. En Angleterre, il y a énormément de restaurants français quand même. Et quand même, la cuisine française est réputée dans le monde entier. Mais il y a vraiment beaucoup de débouchés dans les pays arabes, Dubaï, ils en cherchent. Mais en France, on en cherche aussi beaucoup parce que ça a été un peu dénigré, ce métier. Enfin, tous les métiers manuels, de toute façon, ont été dénigrés, ce qui est dommage.
Enfin bon, on se dit avec Top Chef, avec le meilleur pâtissier, etc., c'est devenu très populaire, la cuisine, finalement. Tout le monde a envie de mettre la main à la pâte aujourd'hui, je trouve, non ?
Ouais, ça a été médiatisé. Maintenant, il faut savoir quand même que c'est un métier qui est quand même... je pense qu'il faut, faut avoir la passion, parce que c'est quand même un métier assez dur. Hein. En EHPAD, on n'a pas les mêmes horaires, on essaie quand même plus souple. En restauration gastronomie, faut pas avoir peur de faire 13 heures par jour, 13 heures, 14 jours. Et la cuisine, on travaille surtout quand les gens ils font la fête. Voilà. Le jour de l'an, Noël, les jours fériés... c'est là où il faut travailler. Ouais. Donc pour un jeune qui commence la restauration, c'est vrai que c'est pas évident au départ.
Ça vaut le coup de faire le sacrifice quand même.
Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais c'est un beau métier. Ouais. C'est un beau métier. Je vous dis, il y a du travail.
Stéphane Lemaitre, merci beaucoup. Je crois que là, ça va être l'heure de la débauche pour vous. Donc on va vous laisser aller. Et merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Je ne sais plus où j'en suis, de mes jours et de mes nuits, aplati dans la poussière, je balbutie terre ma terre, mon enfantine ronde, ma fumante soupière sur la nappe du monde, terre ma terre. Ma terre dolorosa, quitte quoi fait l'hiver d'un grain de mimosa. Terre, pays des arbres buveurs de ciel. Terre, grossesse à la taille d'arc-en-ciel. Terre, sombre caveau de nos ossements. Terre, cinéma muet de notre tourment. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus quoi je suis, aplati dans la poussière, je balbutie terre ma terre, patrie prédestinée, dont les dieux méditèrent la Méditerranée. Terre ma terre, mon bel astre innocent, en solitaire et par un peu de sang. Oh, terre, il ne sera pas dit non, il ne. Terre, il ne sera pas dit que tu mens. Terre, à coups de cime ou bien de cime. Terre, avant que je n'aie percé le mystère au fond du puits, de mes jours et de mes nuits. et balayer la poussière qui souille mon habit, mon organique habit qui m'habite. Terre, ma terre, oh ma terre chérie, toi qui me fis des ailes à la terre panthère, rayée comme le temps, d'apercevoir les terres et de crier maman. Je ne sais plus où j'en suis, de mes jours et de mes nuits, aplati dans la poussière, je balbutie terre, ma terre. Oh, la neige, regarde la neige qui tombe. Cimetière enchanté, fait de légères tombes, elle tombe la neige silencieusement de toute sa blancheur, d'un noir éblouissant. La neige, les yeux les mieux ouverts, sont encore des paupières, et Dieu pour le prouver fait pleuvoir sa lumière, sa lumière glacée, ardente cependant, cœur de braise tendu dans une main d'argent. La neige, elle vient de si haut, la chaste damoiselle, que sa forme voilée d'étoiles se constelle. Elle vient de si haut, cette sœur des sapins, cette bombe lactée que lancent les gamins. Elle vient de si haut, la liquide étincelle qu'au sommet de la terre, elle brille éternelle, brandissant son flambeau sur le pic et le roc comme la liberté dans le port de New York. La neige, meneuse de revue aux folies Stalingrad, descend dans l'escalier des degrés centigrades, de plumes, négresse en négatif, elle dansait un ballet angélique explosif pour le soldat givré, agrippé à son arme, œuf de sang congelé dans un cristal de larmes. Elle danse la neige dans la nuit de Noël, autour d'un tank brûlé qu'elle a pris pour chapelle. La neige,